Voilà, donc évidemment, vous pouvez imaginer que je suis très intimidé d'être ici et là, d'être ému. donc en fait, je vais parler du rôle qu'ont pu jouer les guerres pour stimuler la scolarisation dans les pays développés. Et donc ça, c'est un travail de recherche que j'ai commencé il y a en fait 3 ans, avec un étudiant à moi, Xavier Jaravel, qui est à Harvard, Thorsten Persson, qui est un collègue à Stockholm, et Dorothée Rouzet, qui était une étudiante qui maintenant travaille à l'OCDE. Donc la question qu'on se pose un petit peu, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui a poussé, pourquoi il y a eu une accélération de la scolarisation dans les pays développés vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Et là, il y a des thèses. En l'économie, c'est toujours amusant quand il y a des controverses. J'ai commencé à faire un peu de striptease, mais je m'arrête là. c'est toujours amusant quand il y a des controverses, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a des gens qui croient dans une thèse, et puis il y a une autre thèse, et puis après, on va regarder pour voir quelle est la thèse. On va regarder dans les données disponibles, pour voir si une thèse l'emporte sur l'autre. La thèse dominante, c'était qu'en gros, la scolarisation profitait de la démocratisation. Par exemple, en France, Jules Ferry s'est venu avec le passage du Second Empire à la Troisième République, était considéré quand même comme un progrès dans la démocratie. Et l'idée est de dire, ben voilà, quand il y a démocratisation, c'est le voteur médian qui décide, et le voteur médian a plus de chances d'être... d'avoir besoin d'éducation publique quand c'est une démocratie que quand c'est une autocratie, quoi. Donc vous déplacez l'électeur médian, et l'électeur médian, il est pour la redistribution, il est pour l'éducation, etc. Donc ça, c'était une thèse très dominante, de dire que c'était vraiment la démocratisation qui était le moteur de la scolarisation, d'accord ? Et en fait... il s'est quand même passé quelque chose d'autre qui a provoqué la chute du Second Empire et l'avènement de la Troisième République, ça a été la défaite de Sedan. Et c'est ça qui nous a donné un peu l'idée, c'est de dire, mais peut-être que ça a plus à voir avec Sedan qu'avec la démocratisation. Et la thèse que je vais défendre devant vous, c'est de dire que c'est vraiment, si vous faites ce qu'on appelle en anglais, je vais faire beaucoup de franglais, je m'en excuse à l'avance, de horse race, c'est-à-dire on fait une course de chevaux, c'est on dit il y a l'explication A, il y a l'explication B, on les met en concurrence, et laquelle va gagner? Et je vais vous convaincre que c'est l'explication militaire qui l'emporte. En moyenne, si on regarde l'ensemble des pays pour lesquels on a des données. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle pour la démocratie, et je vais vous en parler, mais il n'est pas le rôle qu'on croit. Il y a un rôle de la démocratisation comme force complémentaire de l'effet des guerres. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a l'effet des guerres qui conduisent à investir davantage dans la scolarisation, dans l'éducation, eh bien la démocratisation agit comme incitant supplémentaire. Mais c'est une force complémentaire, ce n'est pas une force en elle-même. C'est une force complémentaire, c'est ça la thèse que je vais défendre devant vous. Donc moi, je vais essayer de vous convaincre de ma thèse. Bien que j'aurais des questions, de dire mais non, j'y crois pas du tout, etc. D'accord ? Donc c'est ça que je vais essayer de faire. Et je vais essayer de le faire de deux façons. D'abord, je vais parler d'exemples historiques. Donc je vais décrire. Alors là, évidemment, je meurs de peur parce qu'il y a des historiens sérieux dans cette salle. Ils vont me dire qu'est-ce que c'est que cette personne qui a une connaissance si approximative de l'histoire de ces pays. Et donc je vais commencer par parler un peu d'histoire. Et puis après, je vais mentionner quelque chose qu'on appelle l'analyse économétrique, mais n'ayez pas peur, parce que je vais vous décrire ça de manière très, très accessible. Ça m'est arrivé, vous savez, à Matignon, devant Raffarin, on poussait justement pour l'éducation supérieure, et j'ai montré un tableau, comme je vais vous montrer aujourd'hui, et j'ai transformé Matignon en salle de classe, voilà. Et donc, si j'ai pu transformer Matignon en salle de classe, et ça poussait pour l'éducation supérieure, je vais réussir à faire la même chose aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il n'y aurait aucun problème. Donc, n'ayez pas peur, laissez-vous porter, et tout va aller très, très bien. Voilà. Ma thèse, c'est de dire... c'est vraiment les guerres ou la crainte des guerres ou la menace militaire qui est une force essentielle qui pousse à la scolarisation, c'est thèse numéro 1, plus que la démocratie, et que la démocratie, si elle intervient, c'est en complément de l'effet des guerres ou de l'effet des menaces militaires. Ça, c'est la thèse que je vais défendre. Et je vais commencer par vous parler, puisqu'on commence par Sedan, je commence à parler de la France, donc de l'exemple français. Après, je vous parlerai du Japon. Et après, je vous parlerai de la Prusse. J'aurais pu vous parler de la Chine, mais j'ai pas le temps, je crois que j'ai pas... Et après, je dirai ce que j'ai fait en parlant de l'ensemble des pays et un peu ce que j'appelle ce mot un peu d'analyse économétrique, mais je vous dirai un petit peu comment j'ai fait ça. Alors, donc, parlons de Jules Ferry. Donc, lorsque le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, la victoire de la Prusse semble inimaginable. Et pourtant, le 2 septembre de cette année, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan et l'armée française est défaite. Le 18 janvier 71, le roi de Prusse, Guillaume Ier, est proclamé empereur allemand au palais de Versailles. Il faut le faire quand même. C'est là qu'il a annoncé l'unification allemande. C'est-à-dire que ça s'est fait à Versailles. Donc, plus que victoire que ça. Un acte symbolique qui marque l'unification de l'Allemagne. Et la signature de l'armistice le 26 février 1871 nous retire l'Alsace et la Lorraine, quand même très tard. Donc c'est quand même une lourde défaite. Et donc cette défaite conduit à la chute du Second Empire et puis à l'avènement de la Troisième République. Mais il y a des débats, et je vais revenir sur ces débats, parce qu'il n'y a pas tout de suite une prise de conscience. Pourquoi il y a eu la défaite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Etc. Il faut attendre 1879 pour que la Troisième République engage des réformes d'envergure, en particulier dans le domaine de l'éducation. Et comme nous allons le voir, ces réformes sont largement motivées par le désir de rattraper la Prusse. Il y a l'idée de dire mais ils ont gagné parce qu'ils étaient meilleurs que nous. Et ils étaient meilleurs que nous dans différents domaines, notamment l'administration, l'organisation de l'État, mais certainement également l'éducation. Et j'y reviens tout à l'heure. Et ça va être très amusant parce que vous allez voir que la Prusse elle-même s'est éduquée à cause de la défaite contre Napoléon Ier. Vous voyez, c'est une histoire qui ne s'arrête jamais. Bon, enfin... Alors, en matière d'éducation, dans les années en 70, le retard de la France est considérable. Il y a des descriptions merveilleuses sur l'état du système d'éducation française. Nous, on a l'impression que c'est tellement naturel d'avoir des écoles communales, etc. Et il faut voir qu'est-ce que c'était avant. Le système éducatif français se caractérise par un faible budget public. Le système est largement privé. Il est géré beaucoup par l'Église, mais aussi on accommode des écoles du village. Souvent, c'est le boucher du coin ou l'artisan du coin qui fait le cours, et il fait le cours quand il peut. Et la plupart du temps, ils viennent pas. Les élèves ne viennent pas, les profs ne viennent pas. On apprend plus ou moins à lire, mais les enfants ne comprennent pas vraiment ce qu'ils lisent. C'est vraiment une école. Vous allez voir ce que c'est que les conditions évidemment scolaires, d'hygiène, etc. sont déplorables. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1863, par exemple, on sait que 7,5 millions de Français, c'est-à-dire un cinquième de la population, parlent patois et ne parlent pas un mot de français, quoi. Donc c'est un pays qui n'est pas vraiment un pays, c'est-à-dire que vous n'avez pas une langue parlée par tout le monde. Il y a au moins un cinquième de la population qui ne parle pas un mot de français. Et puisque j'évoque l'année 63, il serait quand même injuste de ne pas mentionner le nom de quelqu'un qui a essayé à ce moment-là de réformer l'éducation, mais il n'y est pas arrivé, c'est Victor Duruy, qui a été nommé ministre de l'éducation de Napoléon III cette année-là. Duruy proclame son intention d'améliorer les infrastructures éducatives, d'intégrer les filles au système éducatif, que ce soit pour garçons et pour filles, donc c'était un homme très progressiste, de façon à détacher l'école de l'Église, notamment, et il voulait développer l'enseignement technique. Donc un monsieur avec des idées tout à fait progressistes pour son époque. Dans sa lettre à l'empereur le 6 février 1866, il affirme que son plan de réforme va affaiblir les cléricaux, les orléanistes et les républicains. Alors, c'est moins bien, au profit des partisans de l'Empire. Mais enfin, donc voilà un peu ce qu'il prétendait faire, et il espère convaincre Napoléon III. Seulement, Duruy fait face à une hostilité, surtout dans les campagnes, parce que dans les campagnes, on considère que le travail à la ferme, c'est ça l'éducation, qu'on n'a pas besoin d'école. Et finalement, Napoléon III ne soutient pas Duruy, et le projet de Duruy ne voit pas vraiment le jour, ne n'est jamais mis en œuvre. Donc, c'est la défaite de Sedan qui va servir de déclic, qui va faire basculer le débat sur l'éducation, comme l'explique par exemple l'historien Lindert. Il explique très clairement que les désaccords, d'ailleurs à la suite de Sedan, c'est amusant parce qu'il y a des désaccords qui s'aiguisent entre partisans et ceux qui s'opposent à une réforme de l'éducation à droite, si vous voulez, on peut dire les conservateurs, eux disent Sedan c'est parce qu'on n'était pas suffisamment fidèle aux traditions de la royauté, etc. Ils disent que c'est parce que l'Empire c'est déjà trop progressiste par rapport à une royauté pure et dure, mais quand même ils sont une minorité parce qu'une majorité au sein de l'élite française considère que la Prusse comprenne que la Prusse a triomphé. en partie grâce à la supériorité de son école et de ses universités. Un aphorisme populaire à l'époque est que l'université de Berlin était la revanche prussienne à la défaite de Iéna. Vous voyez, la défaite pour eux, ça a été Iéna contre Napoléon Ier. D'ailleurs, les médias français présentent l'instituteur allemand comme l'architecte de Sedan et l'enseignement secondaire allemand dispensé dans les Realschulen comme le pilier de l'efficacité militaire prussienne. Donc, sinon, arrive Jules Ferry. Au début des années 1880, Jules Ferry fait passer une série de réformes. En 1881, l'école élémentaire devient gratuite. En 1882, l'école devient obligatoire entre l'âge de 6 ans et de 13 ans. En 83, il devient obligatoire pour chaque village de plus de 20, où il y a plus de 20 enfants en âge de scolarisation, d'avoir une école en son sein. Et non seulement ça, mais ça veut dire qu'on construit plus de 17 000 écoles, on en agrandit plus de 5 500, on en répare plus de 8 000, puisque l'état des écoles ne demandait pas à ce que c'était avant, et le budget de l'instruction publique augmente de 53 millions de francs en 1878 à 133 millions de francs en 1885. Mais ce n'est pas juste l'aspect quantitatif de la réforme, c'est l'aspect qualitatif. C'est pourquoi on fait l'école. Sur le plan qualitatif, on apprend aux élèves pas juste à lire, compter, etc. On leur apprend aussi que leur premier devoir, c'est de défendre leur pays. On leur apprend le sens de la discipline. Et on prépare l'élève à devenir un bon soldat en même temps que bon citoyen. On lui enseigne l'histoire et la géographie pour qu'il comprenne. Et on fait des dictées. Mais dans les dictées, il n'y a pas n'importe quoi. Ce n'est pas juste pour apprendre l'orthographe, les dictées. Les dictées, c'est pour enseigner à l'élève son devoir de défendre la patrie. En gros, l'instruction civique remplace le catéchisme. Et donc, on progresse dans cette... Et alors, évidemment, les résultats sont intéressants. La scolarisation augmente de 1100 pour 10 000 en 1870 à 1500 pour 10 000 en 1912. Le taux d'alphabétisation augmente de 80%, mais encore une fois, ils ne savaient pas tellement le contenu de ce qu'ils lisaient en 1870 à près de 100%, 96% en 1912. Et puis la France gagne contre la Prusse, pas uniquement grâce à ça, mais finalement ça paye puisque la guerre suivante est gagnée. Mais c'est intéressant parce que souvent, on viendra là-dessus, mais Jules Ferry, moi je me souviens, Hollande, quand il a fait son discours, il est allé aux Tuileries, non, je crois, où il a parlé de Jules, il a rendu hommage à Jules Ferry. Et il y avait l'impression qu'il y avait un peu dans sa tête deux Jules Ferry. Un Jules Ferry progressiste et un Jules Ferry pas progressiste. En gros, on dit il y a le Jules Ferry de l'école, celui-là il est sympa, il est progressiste. Et puis il y a le Jules Ferry colonisateur et celui-là il n'est pas sympa. Etc. Mais en fait, ça va tout à fait ensemble parce que la scolarisation vous permet aussi de coloniser. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas la même contribution qu'on pense entre ces deux moitiés de Jules Ferry. Voilà, sans vouloir insulter mes amis qui sont de la famille. Donc. Ouais, je passe les vacances dans la maison de Jules, la ligne des Vosges, et donc je connais la. Alors à Saint-Dié. Alors maintenant je vais parler du deuxième exemple qui est le Japon. Donc là j'ai parlé de la France et je vais parler du Japon. Alors le Japon est un exemple intéressant. Pourquoi ? Parce que le Japon, en France, je vous ai dit, il y a eu deux choses qui sont passées en même temps. Ça a été la guerre et la démocratisation. Mais au Japon, c'est surtout la menace de guerre et pas vraiment de démocratisation. Et pourtant, il se passe quelque chose d'important. Donc ça va dans le sens de mon argument, parce que n'oubliez pas quand même que j'essaie de pousser une thèse auprès de vous. Hein. Et là, le Japon va m'aider beaucoup, parce qu'en matière de démocratisation, il n'y a pas eu grand-chose. Donc au Japon, qu'est-ce qui se passe ? Le Japon, depuis le XVIIe siècle, le Japon est gouverné par des seigneurs militaires qu'on appelle les shoguns, et qui font partie de la dynastie des Tokugawa. Et les shoguns ont comme chevaliers, comme personnes qui administrent, etc., les samouraïs. Vous voyez, donc vous voyez, les shoguns, les samouraïs, c'est le mot qu'on... Voilà, donc on retrouve ces gens-là. Et l'éducation est un système réservé aux samouraïs, c'est-à-dire que très peu de gens ont accès à l'éducation, et le contenu de l'éducation, essentiellement, on étudie les textes classiques, on étudie Confucius, essentiellement. Voilà ce qu'on étudie dans les... Donc c'est les samouraïs qui étudient Confucius. C'est ça l'école japonaise jusqu'au XIXe siècle. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à ce moment-là, en 1853, Commodore Matthew Perry, américain, arrive au Japon avec un ultimatum, mais il a les puissances de l'Ouest derrière lui, les puissances occidentales avec lui, et il dit au Japon, écoutez, c'est très simple, ou vous signez ce traité de libre-échange, ou on vous fait la guerre. Donc, en 1854, d'ailleurs, pour leur faire peur, il y a des navires de guerre américains qui sont stationnés au large des côtes japonaises, pour bien, car ils n'auraient pas bien compris. Et finalement, eh bien, il y a la convention de Kanagawa qui est signée le 31 mars 1854, donc sous menace de guerre. Et donc, les Japonais sont acculés au libre-échange par la menace de guerre. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de guerre qui a lieu. C'est la menace de guerre qui provoque le... Et donc, suite à la crise de 1853 et des traités de libre-échange imposés par les puissances occidentales, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une partie des samouraïs comprennent que les Tokugawa, ils ne sont plus très utiles, quoi. Finalement, ils ne les ont pas défendus contre ces menaces de guerre. Et donc, il commence à y avoir, au sein des parmi les samouraïs, une partie qui va se révolter contre la dynastie des Tokugawa et qui va les renverser. Et en fait, finalement, il y a une guerre civile qui éclate et des samouraïs venant de régions comme le Tosa, le Satsuma et le Soshu forcent la démission des Tokugawa. Et en janvier 1868, eh bien, ils demandent à l'empereur Meiji, nouvellement intronisé, de proclamer une restauration impériale. Et donc, ces forces révolutionnaires qui portent cet empereur Meiji ont comme programme, un programme très, qui fait beaucoup penser à ce qui se passe chez nous en 1870, c'est-à-dire l'unification politique, la centralisation de l'administration, la rénovation de l'armée, la refonte du système éducatif. Et donc là, il y a des grands réformateurs en matière d'éducation, Kido Koin, Omura Masuzuro, Yamagata Arimoto, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Eux, ils regardent, eh bien, ils se disent, écoutez, les Américains, les Européens, ils sont plus forts que nous, et allons voir comment ça marche l'éducation chez eux. Et ils comprennent l'importance d'un système d'éducation de masse. Que je vous ai dit tout à l'heure, en Japon, l'éducation était le privilège des samouraïs. Maintenant, ils comprennent que l'éducation, eh ben, il faut que tout le monde soit, ait accès à l'éducation. Il y a cette phrase de la ministre de l'Éducation qui s'appelle Hari Nori. Notre pays doit passer du statut de nation de troisième catégorie à celui de nation de deuxième catégorie, puis de celui de nation de deuxième catégorie à celui de nation de première catégorie. Au final, nous devons parvenir, nous, Japonais, au statut de leader mondial. Le meilleur moyen d'y parvenir et d'établir les fondements d'un nouveau système d'éducation élémentaire. Donc, en 1872, eh bien, a lieu au Japon une réforme radicale du système éducatif. On déclare qu'il y a 4 années d'éducation obligatoire pour tous les enfants. Et en même temps, on met en place l'équivalent d'école normale pour former les profs. Et donc, il y a tout un système qui se met en place au Japon pour former les instituteurs, les instructeurs. Donc, ça, c'est une énorme... Et alors là, les résultats sont spectaculaires. La scolarisation, qui n'était qu'à un taux de 28% en 1873, grimpe à 98% en 1910. C'est gigantesque. L'alphabétisation fait un bond incroyable au Japon. Entre 1865 et 1910, le taux d'alphabétisation augmente de 35% à 75% pour les hommes et de 8% à 68% pour les femmes. C'est gigantesque, quoi. Et si vous voulez, il n'y a pas de... Et cet exemple japonais est particulièrement intéressant parce que, de façon très claire, c'est les considérations de menaces militaires qui l'ont emporté. Il n'y a pas vraiment une démocratisation de la société japonaise avec l'arrivée de Meiji. Et donc ça, c'est comme ça une chose intéressante dans mon monde. Alors je voudrais parler, finalement, je n'ai pas une idée du temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Vous avez, ça va, parce que des fois, je me perds un petit peu, je me suis pas minuté, là. Il me reste 10 minutes? Non, 10 minutes seulement? Oh là là, c'est la catastrophe. Bon, je vais essayer de... Ça, c'est dramatique, ça, pardon. Alors, un quart d'heure, merci, voilà. Alors, je voudrais juste parler de la Prusse, parce que la Prusse est un exemple intéressant. Le déclic en Prusse est venu de la défaite de Iéna. En 1806, eh bien, Napoléon Ier défait l'armée prussienne à Iéna. Et cette défaite pousse Frédéric Guillaume III à faire une révolution, d'abord dans sa tête, avant de faire une révolution de l'État, une grande réforme de l'État, qui finira par inclure une grande réforme du système éducatif. Et alors moi, je vais vous amuser un petit peu, je vais vous donner une citation. Donc Iéna, c'est en 1806, 3 ans avant, si vous demandiez à Frédéric Guillaume III ce qu'il pense de l'éducation, il vous dit la chose suivante. « Les enfants de la Volksklasse, c'est-à-dire des classes populaires, ne doivent pas devenir enseignants, ni agents de la fonctionnaires dans les chancelleries, ni mathématiciens, ni professeurs de religion, ils doivent apprendre à lire leur catéchisme, la Bible, à écrire et compter en accord avec les limites de leur situation sociale et dans l'amour et la peur de Dieu. » C'était ça l'idée dominante. Et évidemment, Iéna change tout. Après la défaite d'Iéna, Frédéric Guillaume III panique, il charge le baron von Stein de mettre en œuvre un programme ambitieux de réforme de l'État, et Stein commence par réformer l'administration des villes, l'armée, et il comprend peu à peu la nécessité de réformer l'éducation. Il fait alors appel à quelqu'un dont, évidemment, si vous-même je ne vous dis pas le nom, vous allez me le dire le nom, vous le savez le nom, hein. C'est le merveilleux à qui on doit tout, à qui l'excellence universitaire dont on parlait tout à l'heure doit tout. C'est le nom, c'est lui qui a tout compris. C'est Humboldt, hein, c'est le merveilleux von Humboldt qui devient ministre de l'Éducation en février 1809. Et Humboldt, il me dit, l'idée maîtresse de la réforme est d'insuffler les valeurs morales, religieuses et patriotiques à la nation. Il réforme les programmes, les méthodes d'enseignement. Il augmente évidemment considérablement la scolarisation. Et il organise le système en primaire, secondaire, université. C'est à lui qu'on doit cette séparation, et primaire, secondaire, et université, avec des fonctions bien particulières pour chacun. Et là, évidemment, les résultats à nouveau spectaculaires, les taux d'alphabétisation augmentent de manière spectaculaire en Prusse. Et donc, c'est comme ça que la Prusse... Vous voyez, c'est donc la défaite d'Iéna fait que la Prusse devient leader en matière d'éducation. Et du coup, il gagne contre nous à Sedan. Et nous, du coup, nous, on doit rattraper. Vous voyez, il y a un peu comme ça, sans ramer, cette concurrence militaire qui... Et alors après, on peut dire, mais ça, vous m'avez parlé de trois pays. Mais alors, comme je n'ai plus que 10 minutes, je sens Antoine s'impatienter, se faire du souci. Vous pouvez regarder, on a regardé pour 53 pays pour lesquels nous avions plus que 40 années d'éducation primaire. On a vu que 43 ont eu une guerre dans les 20 ans qui ont précédé la grande réforme, la grande augmentation de l'alphabétisation, de la scolarisation dans leur pays. Et en fait, dans la plupart des cas, c'était pas une transition démocratique. Donc c'est comme ça qu'on le... Alors je voulais juste vous montrer, puisqu'il me reste très peu de temps, les économistes, ils disent, bon, évidemment, il y a les exemples historiques, mais on peut toujours dire, vous m'en sortez 3, je peux vous en sortir 2 autres. Donc on essaye de faire des analyses en moyenne, c'est-à-dire de dire, voilà, on prend tous les pays pour lesquels on a des données, et on essaie de tester une relation économétrique. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment, je ne veux pas du tout vous apposer des équations, mais c'est de dire, enrollment, c'est la scolarisation, et la scolarisation, eh bien, elle peut être fonction de la menace militaire, c'est ce qui s'appelle threat, elle peut être fonction de du degré de démocratie et de l'interaction entre les deux et de toute une série d'autres caractéristiques. Et là, je vais vous montrer simplement un tableau, qui vous montre tout. Le tableau, il vous dit la chose. Alors les tableaux, il ne faut pas vous paniquer sur les tableaux, simplement il faut retenir qu'il y a des nombres qui sont positifs, et il y a les étoiles qui sont comme les étoiles du guide Michelin. Vous voyez, quand les étoiles du guide Michelin, quand vous en avez 3, je crois que ça vaut le voyage, quand vous en avez 2, ça mérite un détour, etc. Et bien c'est pareil dans les régressions. Quand vous voyez 3 étoiles, c'est très bon, c'est très significatif. Et vous voyez, de manière très intéressante, que quand vous contrôlez pour la menace militaire, qui est le gros facteur, même la démocratie, elle vient plutôt négative, vous voyez, si tant est. Mais le gros, c'est le... Donc déjà, quand je vous ai dit, je vais regarder ma thèse entre menace militaire et démocratie, et ça, je le fais sur des données qui couvrent tous les pays européens depuis 1820 et tous les pays du monde depuis 1960. Donc c'est vraiment tous les pays pour lesquels on peut avoir des données. Et si vous faites la moyenne de tout ça, et vous trouvez ces résultats. Vous pouvez après dire, je me restreins juste aux pays en développement depuis 1960, j'exclus les pays européens, ou juste je me restreins aux pays européens. C'est très, très, très robuste. Et l'autre chose intéressante, il y a une interaction positive. Il semble qu'à partir du moment où il y a menace militaire, eh bien, la démocratie est un facteur qui accélère. C'est-à-dire que ça a aidé le fait qu'il y ait une transition démocratique en France. Ça a aidé à ce que ça soit irréversible et plus rapide. Voilà. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Et je vais essayer d'avancer une explication pour ça. Il me reste combien, Antoine, maintenant? Moins combien il me reste? 4-5 minutes, voilà. Donc, alors, évidemment, la démocratie, on peut regarder dans la démocratie. Vous savez, dans la démocratie, c'est un mot très large. La démocratie, ça peut être différentes choses. Ça peut être, par exemple, on contraint ce que peut faire l'exécutif. On l'empêche de faire tout. C'est la séparation des pouvoirs. Ça, c'est une dimension de la démocratie. Mais ça peut être aussi à quel point le système d'élection est ouvert. Et donc, il y a différents composants de la démocratie. En fait, ces deux composants sont aussi importants l'un que l'autre. Donc, on peut dire démocratie avec une manière très agrégée, et on peut décomposer la démocratie pour voir est-ce que c'est plus le fait qu'il y a des élections très libres, ou est-ce que le fait que simplement la personne qui est en charge, eh bien, elle fait pas ce qu'elle veut. Eh bien, ces deux dimensions semblent très importantes comme renforçant l'effet de la l'effet des contraintes militaires. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est qu'on a regardé, on peut dire, mais c'est peut-être l'effet de l'industrialisation. Et ce tableau-là, je ne veux pas aller dans le détail, ce qu'il montre, c'est que ce que je vous ai raconté, c'est vrai à partir d'un certain seuil d'industrialisation. Quand vous êtes en dessous d'un certain seuil, eh bien, c'est moins vrai. Et d'ailleurs, la France, avant la révolution industrielle, c'était d'autres technologies de guerre, c'était d'autres circonstances. Là, ce n'était pas important d'avoir de l'éducation. Ben, ce tableau, quelque part, vous dit que quand vous êtes en dessous d'un certain niveau d'industrialisation ou dans la table suivante d'urbanisation, eh bien, ça ne s'applique pas. C'est-à-dire qu'il fallait l'école de masse pour une technologie moderne, pour la France du 19e siècle, pour l'Allemagne du 19e siècle. Mais pour la France médiévale, ce n'était pas nécessaire. Donc, je fais écho à ce que tu disais hier sur la guerre de masse. On va plus vers une guerre de masse qui nécessite que tout le monde soit éduqué. Mais quand on était à l'époque des chevaliers, etc., c'était pas le cas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a en fait derrière, de manière sous-jacente, au 19e siècle, ces pays passent à une, on passe à une phase nouvelle où la technologie de guerre est différente. Et donc, c'est ça qui fait que, de tel coup, la scolarisation de masse devient importante. Alors maintenant, on peut dire pourquoi, et j'en termine là, je dis théorie, quelle est votre un peu l'explication? Pourquoi la démocratie, ça peut être bien? Alors, je vous raconte une petite histoire. Mettons une histoire avec Marc et moi. Marc dirige le pays. Mettons qu'on a un pays, Marc est... Ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc, Marc, c'est vraiment le dirigeant et moi, je suis l'opposant, d'accord? Mais il a besoin de moi pour faire la guerre parce que le problème de Marc, c'est qu'il ne veut pas me donner trop de pouvoir. Il veut tout garder pour lui, mais en même temps, si on perd la guerre, il perd tout le gâteau. Donc, il dit, il vaut mieux quand même m'allier avec Philippe parce qu'avec Philippe, on va quand même gagner et on aura plus à partager. Mais s'il y a de la démocratie, il sait que j'aurai un peu ma part du gâteau si on gagne la guerre. Donc il sait que s'il investit dans l'éducation, moi j'en ferai un très bon usage pour me battre et faire des choses. Parce que je sais que moi, bien que n'étant pas à la tête des affaires du pays, n'étant pas gouvernant, comme il y a de la démocratie, je peux quand même avoir une certaine part du gâteau. Donc la démocratie fait que finalement... si la personne au gouvernement investit dans l'éducation, ça induit quand même, tout le monde répond, parce que tout le monde a quand même sa part, voyez, parce qu'il y a un aspect non vérifiable de ces efforts de guerre ou de l'efficacité à la guerre. Et donc, nous, on l'explique comme ça, le fait qu'il y ait complémentarité de la démocratie et de la menace de guerre. Les menaces de guerre, ça marche bien. Ça fait que j'investis en éducation, mais l'investissement en éducation, si l'autre groupe pense qu'ils n'ont rien à gagner, eh bien, ils ne feront rien. Ils ne font que parce qu'ils savent qu'ils ont quand même quelque chose à gagner, même n'étant pas le groupe qui gouverne. Et la manière intéressante de se rendre compte, c'est qu'on peut comparer avec d'autres investissements qui sont, par exemple, les infrastructures routières. Vous savez, la guerre incite aussi à d'autres choses que l'éducation. Ça incite aux infrastructures routières, il y a d'autres choses. Ça, c'est très vérifiable. Là, il n'y a pas le problème de la démocratie, parce qu'on peut tout de suite voir est-ce que tu as fait les kilomètres de route ou pas. Dans les efforts de guerre, il y a l'intelligence, il y a la coordination, il y a beaucoup d'aspects non vérifiables. Dans les aspects vérifiables, quand c'est vérifiable, il n'y a pas de problème. Et vous voyez que dans ce tableau-là, le terme d'interaction qui est là, il est totalement non significatif. Il n'y a pas d'étoiles. Vous voyez, les étoiles, elles ont disparu. Il y a juste l'effet sur l'effet de la menace de guerre sur les constructions de routes, mais la démocratie n'arrive absolument, ne joue absolument aucun rôle. Donc ça aussi, ça va dans le sens de dire, c'est parce que l'effort de guerre a un côté non vérifiable. Il faut quelque part la coopération de l'autre groupe. On lui donne des moyens, mais on a besoin de sa coopération. Et sans la démocratie, il coopérera moins, quoi. Et je crois que c'est ça qui a en France, c'est que ça a été qu'il y a eu l'effort éducatif, mais en même temps avec un système plus démocratique, et c'est cet ensemble-là qui a fait que les gens étaient motivés et que la France est devenue un pays beaucoup plus efficace dans la guerre ensuite. Donc je veux juste terminer, puisqu'il me reste 2-3 minutes, c'est de dire, eh bien, on a essayé de défendre une thèse, et la thèse c'est de dire, eh bien, les menaces de guerre ou la guerre jouent un rôle important pour motiver la scolarisation. Et on a regardé l'exemple donc de la Prusse répondant à Napoléon Ier, de la France répondant à la Prusse après Sedan, et du Japon. Et j'aurais pu parler de la Chine également. Et en fait, l'analyse économétrique montre que quand vous regardez les pays dans leur ensemble pour lesquels on a des données disponibles, cet effet est très très fort et ressort très fortement. Maintenant, comme je viens de le dire, la menace militaire conduit plus généralement à construire l'État. L'État s'est souvent construit dans d'autres composantes que l'éducation en réponse à la menace de guerre. D'accord ? Par exemple, à ce qu'on appelle La capacité fiscale, par exemple. C'est les pays, en général, quand l'État est très peu développé, tout ce qu'on peut faire, c'est des tarifs douaniers. Et puis après, on se développe, on peut faire un impôt sur le revenu. Et puis après, une TVA, etc. Et ça, tout ce qui est... Il y a différentes mesures, façons de mesurer le pouvoir de l'État, ou la force de l'État, ou la faiblesse de l'État. Et c'est très relié aux menaces de guerre. Voilà, parce qu'il y a un investissement dans l'administration, et souvent, il répond aux menaces de guerre. Alors, il y a deux choses que je voulais dire pour conclure. Deux remarques. La première remarque, c'est que le fait que l'école en France soit venue de la guerre, moi, ça me rappelle les 400 coups de Truffaut. C'est quand même, qu'est-ce qu'on voit dans les 400 coups ? On voit une école quand même assez militaire, quoi. On rigole pas dans cette salle de classe, pas très sympathique, ce professeur qui engueule les élèves, etc. C'est quand même une école. Moi, je me rappelle un Américain qui est venu en France. Son père était mathématicien et il s'est retrouvé dans une école à Gif-sur-Yvette. Et le premier jour, il a vu le prof donner une baffe à un élève. Il était très surpris, il ne comprenait pas, il fallait marcher en rang, il n'était pas habitué. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a des aspects, si vous voulez, et vous voyez ça aussi dans le système japonais, etc. C'est-à-dire que le fait que l'école ait émergé de la menace militaire se voit dans les caractéristiques. C'est une école très verticale. Et alors là, il y a eu des travaux très intéressants de mes collègues Algan, Cahuc et Schleifer, parce qu'ils ont étudié, ils ont essayé de comparer des systèmes éducatifs de par le monde en termes de, est-ce qu'ils ont des systèmes horizontaux ou verticaux. Et nous, on avait un système très vertical. Le maître parle, il faut entendre les mouches voler, quoi. Et il n'y a pas d'interaction. Maintenant, un peu plus, après 68 ou d'autres. Mais dans d'autres pays, il y a beaucoup plus d'interactions. Des pays où on a trop, d'ailleurs. Les Suédois sont allés trop dans l'autre direction de faire que des interactions horizontales, on n'entend plus la voix du professeur. Mais si vous voulez, c'est très intéressant parce que l'histoire de comment est venue l'école explique en partie pourquoi l'école est comme ça. Or, c'est important parce que ce que montrent mes amis Cahuc et Algan, c'est quand vous avez une école très hiérarchique où c'est l'autorité et il faut obéir aux profs, ça vous donne des relations dans l'entreprise qui sont également des relations excessivement autoritaires, où la confiance n'est pas là suffisamment. Et vous savez qu'il y a tout un débat sur la confiance, l'importance de la confiance, le climat souvent mauvais dans les entreprises françaises, et c'est très lié, considère-t-il, à la manière dont ça se passe à l'école, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi ça se passe à l'école comme ça, et peut-être que l'explication que j'ai avancée vous donne peut-être une raison pour laquelle il y a un côté assez militaire, et c'est donc à l'école française. Et la deuxième, et je termine là, Antoine, pour te libérer, Antoine, je sens qu'il n'en peut plus, là. Alors, c'est la chose suivante. J'ai parlé de concurrence militaire, mais maintenant, heureusement aujourd'hui, c'est la concurrence économique qui a remplacé. C'est-à-dire que maintenant, c'est le fait qu'on a peur d'être dépassé par d'autres pays. Alors moi, j'espère beaucoup que ça va jouer dans le cas de la France par certaines réformes qui sont donc trop tardées et qui doivent être mises en œuvre en France. Mais je crois que beaucoup, la concurrence de voir que l'Espagne réforme, que tous les pays d'Europe réforment, que le Canada a réformé et nous, on est les seuls à ne pas le faire, peut-être qu'il va y avoir le même effet et que maintenant, sans les guerres, on peut faire certaines choses et que c'est en fait la concurrence économique qui prend le pas. Et je crois que la concurrence, c'est une force très forte. La concurrence vous incite à innover pour faire mieux que le voisin. Elle vous incite aussi également à changer vos institutions pour faire mieux que le voisin. Et je crois beaucoup, je ne crois pas qu'il y ait des pays qui soient condamnés au sous-développement perpétuel. Parce que je crois que la concurrence, alors c'était la concurrence militaire à l'époque, mais maintenant ça devient en plus, heureusement, la concurrence économique, est une force formidable qui protège contre les trappes de sous-développement perpétuel dans les différents pays. Tout pays peut sortir d'une trappe, et la concurrence est un des grands leviers. Jomo Kir vous expliquera que, par exemple, si la révolution industrielle s'est produite en Europe et pas en Chine, c'est qu'en Europe, vous aviez la concurrence entre différents pays. Si la France refusait des scientifiques, ils allaient dans le pays voisin. Et la concurrence entre pays, le fait qu'elle ait eu lieu d'abord en Angleterre et qu'il y ait concurrence avec la France, a été certainement également un levier en termes de concurrence économique pour que la France progresse. Voilà. Je voulais juste vous raconter ces petites choses-là, et puis je m'arrête. Merci.